Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé d'Hebdo dans une poignée de minutes. David Bayot va venir nous rejoindre pour parler évidemment du retour de Plus belle la vie, mais aussi bien sûr de ses projets. On va parler de la série La Tribu qui démarre ce soir sur TF1. Ses producteurs Thierry Sorel et Harold Valentin, ainsi que les comédiens Alix Poisson et Jonathan Zakaï seront nos invités exceptionnels pour en parler. On va parler également de la série Événements qui débarque mercredi sur France 2. Tout cela, je te le donnerai. Édouard de Vézine et Nicolas Guichetot, producteur et réalisateur, seront avec nous accompagnés d'Aurélien Vic et de David Kamenos, nos héros. Et puis on va également parler dans une poignée de secondes du film Ma part de Gaulois avec Adila Bendimerad et Abdallah Charki qui débarquent avec nous dans un instant. Et puis Samuel Labarthe également va venir nous parler du nouvel épisode inédit de Flair de famille qui continue samedi à 21h10 sur France 2.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine s'appelle Ma part de Gaulois, le film de Malik Shiban avec aujourd'hui deux des comédiens qui sont avec nous. On a Adila Bendimerad qui joue la maman. Bonjour Adila.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a également le héros de cette histoire, Abdallah Charki. Bonjour Abdallah.
Santé, comment ça va Alain? Vous allez bien?
Oui, ça va très bien. Je suis très content de vous avoir parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, en plus, voilà, pour la petite histoire, je suis né en 75, donc évidemment l'histoire m'a un peu transporté, je dois avouer, puisqu'en fait, l'histoire nous embarque dans en année 75, au tout départ. On va y découvrir ton personnage et toute une... Alors, une ascension sociale, évidemment, au départ. Mais on va en parler un peu du synopsis du film dans un instant. Mais déjà, tous les deux, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet? Qu'est-ce qui vous a fait dire « oui, j'y vais » Adila.
Alors, ce qui m'a plu, c'est ce qui me ressemble et ce qui ne me ressemble pas. Voilà, c'est très simple. C'est-à-dire, l'histoire de cette maman avec son fils, c'est aussi une histoire universelle. Mais c'est aussi une histoire quand même très inscrite dans l'histoire des mamans algériennes qui se battent beaucoup pour la scolarisation de leurs enfants.
Très protectrice aussi.
Oui, parce que la scolarisation aussi n'a pas été évidente depuis longtemps, en fait, avant 62, après 62, il y a toujours eu ce côté où on emmène les enfants directement vers des formations manuelles, et c'est pas forcément là où ils sont les meilleurs. Et donc cette envie de s'affranchir un petit peu de ce système et de propulser ses enfants plus loin, parce qu'elle-même ne sait pas lire et écrire, donc il y a aussi ce désir à elle, finalement, de passer le bac. Et puis, comme je disais, il y a une histoire d'immigration qui est la mienne aussi, parce que moi, je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans et je ne parlais pas français et je ne savais pas lire en français. Donc, il y a aussi toute cette langue qu'on se réapproprie, qu'on va à la reconquête d'une langue qui n'est pas la nôtre. J'ai trouvé cette femme proche de moi, mais en même temps proche de ma mère et proche de toutes les mamans. Enfin, voilà, dans une histoire qui se ressemble et qui est aussi différente.
Quelque chose de très attachant entre Mourad et sa maman, ça c'est sûr en tout cas. Ce parcours de Mourad que t'incarnes, toi qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle?
Dans ce rôle, ce qui m'a plu déjà c'est le personnage de Mourad, la relation qu'il a avec sa mère, le parcours initiatique. Ce personnage, la vérité, je pense sincèrement moi, c'est qu'il découvre un nouveau monde et à partir de là, toutes ses pensées limitantes se cassent et il se dit « Ah en fait c'est possible de faire autre chose, c'est possible d'avancer dans une autre direction, c'est possible d'évoluer ». et on n'est pas bloqué dans les carcans qu'on nous a donné, par exemple, où il habitait, ou alors dans les carcans que sa mère lui impose d'avoir le bac. C'est très important, mais lui décide de faire autre chose parce qu'il découvre en lui une passion et que c'est possible d'avoir une passion. Parce que
la musique, en l'occurrence.
Exactement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas tous la chance de se dire qu'on peut pratiquer notre passion. Et ça, c'est une chance qu'on peut pas négliger. Et si on réussit à l'avoir, faut foncer et continuer parce que c'est quelque chose d'unique, je trouve.
Il y a quelque chose de personnel aussi dans ce film par rapport à Malik Chibane. Parce que c'est la question que je me suis posée, s'il racontait pas aussi une part de son histoire, Malik.
Oui. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai pas lu le roman avant de tourner. Parce que bon, comme je racontais, j'étais dans une période un peu particulière, puisque Malik Chibane m'appelait quand je suis sortie de la maternité et que je venais d'être maman, moi aussi. Et donc, j'ai pas eu le temps de. J'ai juste lu cette histoire et j'ai petit à petit, Malik, j'ai senti qu'il me parlait aussi de sa mère. Et d'ailleurs, j'ai vu même des photos de la maman de Malik Chibane et je trouvais qu'on se ressemblait toutes les deux. Et ça m'a pas étonnée parce que il est de la même génération que Majid Cherfi. Et c'est aussi le film d'une génération, quand même, ce film.
Ah, complètement. À laquelle on se reconnaît, on peut se reconnaître tous, ces quarantenaires.
Oui, et puis c'est une génération qu'on est quand même assez content de raconter, parce que moi aujourd'hui j'ai le fils de Malik Cherfi qui m'a écrit et qui m'a dit « Je suis tellement fière de voir que vous jouez ma grand-mère ». Et c'est intergénérationnel et c'est aussi une histoire qui n'a pas été transmise forcément, l'histoire de l'immigration. Moi par exemple, qui vient d'Algérie, je ne connaissais pas l'histoire des miens qui étaient partis immigrer dans ces années-là et qui étaient souvent la classe ouvrière. Je ne connaissais pas leur histoire et ça m'a beaucoup bouleversée. Et j'ai trouvé ça très juste que Malik me demande à moi aussi, comme Madame Chakraoui était venue d'Algérie. Donc j'avais aussi la langue à apporter, j'avais, comme les mamans à l'époque, finalement. Elles arrivaient, elles parlaient en arabe avec leurs enfants, et des fois les enfants comprenaient pas l'arabe. C'est important de dévoiler cette histoire aussi, de la raconter, surtout que là, elle est racontée de façon très émouvante, il y a beaucoup d'humanité, et toutes les familles un peu du monde peuvent se reconnaître, C'est très touchant ce qu'il a fait Malik parce que c'est au même temps très personnel.
Ça se sent, en tout cas ça se ressent quand on regarde le film, ça parle de plein de sujets, de l'immigration évidemment, des années 70 mais aussi de la musique, du bac, des études, de l'ascenseur social aussi, hein, et le regard des autres aussi de l'époque qui pouvait être effectivement important. On va continuer à en parler juste après, ma part de Gaulois, c'est... Le film à ne pas manquer, évidemment, en cette fin janvier, au cinéma, dans toutes les bonnes salles. On écoute la bande-annonce et on revient juste après avec vous.
Let's go.
C'est parti.
Maman, tu fais de quoi?
Ton passage en quatrième.
Maman, c'est pas possible. Tu vas pas faire une fête à chaque fois que je passe dans une classe. Tu me mets la pression.
Ah oui.
Il peut aller dans un bon lycée.
Oui, moi, je suis d'accord.
Non, un très bon lycée.
Alors, c'est comment dans ton nouveau lycée chez les Bourges?
Moins 7.
Il faudrait l'aider avec un étudiant.
Je vais trouver.
Un narwhal, capitaine.
Pause. C'est à cause de ton bac de merde là que ça embrouille.
C'est toi le rapport?
Je crois que ton étudiant, il le paye avec des macroutes ou quoi?
Le lycée, c'est pas fait pour moi.
C'est pas ma faute si t'as jamais de jeunesse, maman.
Moi, j'ai envie d'en avoir une.
On le disait, Abdallah, la musique est très présente aussi, pour le coup, dans le film, puisque Mourad, évidemment, sur les souhaits de sa maman, plus que de son papa d'ailleurs, qui lui est très très dur, plutôt dans le manuel, dans le travail, gagner sa vie, alors que sa maman avait absolument qu'il aille plutôt au bac, alors que lui a une passion enfouie, c'est la musique. Comment allier les deux et comment faire plaisir à sa mère tout en vivant sa passion? C'est pas simple.
C'est vrai, c'est pas simple, mais juste avant, je voulais passer sur quelque chose que vous avez dit. Moi, je trouve pas que le père soit extrêmement dur, parce que lui, il a des responsabilités, il a une famille à nourrir, et pour lui, faut travailler. Et il a ça en tête et il a pas d'autre image. Et c'est pour ça, pour lui, le bac, ça va servir à rien. Et lui, il a la responsabilité de nourrir sa famille. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai, c'est compliqué, mais après, c'est des choix de vie. On a tous des choix à faire dans la vie. Est-ce que on écoute le rêve de quelqu'un pour lui faire plaisir, ou alors son propre rêve, pour peut-être après rendre fier en plus ses parents? Mais ça, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas réussi son rêve. C'est pour ça, c'est un choix à faire entre la passion, la fierté de ses parents. C'est très compliqué, mais je pense que si on est sincèrement passionné, parce qu'il faut pas confondre une passion et une envie, quand on est sincèrement passionné, on va se donner corps et âme pour réussir quelque chose, et je pense sincèrement que on va réussir à mettre à l'écart les avis des autres, même si c'est nos parents, et on va se battre pour ce rêve, et on va sûrement accomplir quelque chose avec ce rêve, et du coup on pourra rendre fier grâce à l'accomplissement de cet objectif qu'on a eu. Donc quoi qu'il arrive, si on est sincèrement passionné, on peut rendre fier sa famille, ses parents. Donc s'il y a déjà passionné ici, let's go.
C'est intéressant ce que tu dis, c'est une belle leçon également, et même de nos jours encore plus. La maman va tout faire pour couvrir son fils, pour payer son soutien scolaire, elle va vraiment tout faire, même en cachette de son mari, et contre la vie des fois de son mari. C'est une maman qui est une femme forte, qui est pas soumise, qui est toujours aussi dans l'empathie vis-à-vis de ses enfants, qui essaye de comprendre son mari même si elle le tient un peu à la baguette, on a l'impression. En tout cas, c'est un parcours de femme forte.
Bah, je pense que cette femme, milieu ouvrier, les années 70, immigrée, quatre enfants, elle a pas trop le choix, va falloir être forte. Mais je pense aussi qu'elle tient, et on le voit dans le film, parce qu'elle s'adresse à son père. Elle s'adresse à son père à travers la photo. Elle porte en elle une histoire qu'on connaît en fait, et qu'on connaît chez les femmes algériennes, c'est-à-dire que l'histoire de la scolarisation, ça a été avant 62, les indigènes n'allaient pas à la même école que les Européens, donc ils étaient faits, en fait ils avaient une école qui leur permettait de faire les travaux manuels. Ils étaient destinés à ça. Et après 62, ça a continué. Et donc, ce qu'elle est en train de faire, c'est un vrai travail d'affranchissement, finalement, de rompre un petit peu ce système et de dire, non, c'est possible aussi pour mon fils. Sauf qu'elle, elle se dit, il va avoir son bac, comme ça, il va faire... dans le film, c'est l'école de Bourges. C'est une école où, en fait, y a pas une grande diversité. Et donc, elle se dit, mais moi, mon fils, ça sera le premier. Donc, il a toute cette responsabilité sur le dos.
Est-ce que le premier de la cité du quartier à aller au bac. Donc
elle veut s'affranchir de ce système scolaire qui envoie très souvent les enfants d'immigrés vers les travaux manuels, alors que peut-être qu'il y a des possibilités autres, s'ils en ont envie, en tout cas ça, c'est un droit. Et ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va aller plus loin que sa mère, c'est qu'il va s'affranchir, et en fait il va faire un truc qu'il aime. Genre, elle s'est cassée la tête pour qu'il passe le bac, et après elle lui dit je veux être un saltimbanque de musicien, et là elle comprend rien.
Ça lui tombe sur la tête à ce moment-là.
Elle tombe sur la tête, et c'est tellement beau, parce que c'est que de l'affranchissement à travers les générations, c'est que de la liberté, et c'est que du développement, c'est-à-dire comment trouver sa place dans tout ça. Et lui, il trouve sa place par un chemin un peu compliqué. Et elle, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est elle qui passe son bac, parce qu'elle sait pas lire, elle sait pas écrire. C'est comme si elle se vengeait un peu de la vie, c'est-à-dire ce que moi j'ai pas pu faire, j'aimerais que mon fils...
Elle transpose sur son fils.
Voilà, elle transpose ça sur son fils, mais nos enfants, ils nous appartiennent pas. Il faut qu'on arrive à les laisser libres. C'est dur, on aimerait les garder. Il y a tous ces questionnements universels, encore une fois.
On est dans les années 80, même 81 pour une certaine période. Toi, forcément, t'as pas forcément connu François Mitterrand, etc. Et du coup, est-ce que t'as appris des choses un peu justement en tournant ce film, des choses historiques sur notre président de la République, sur ce lien que pouvaient avoir les immigrés justement au moment où il est élu, et le choc que ça a pu provoquer d'ailleurs aussi chez eux, on le voit très bien dans le personnage de ton père. Mais qui lui veut quitter le pays carrément.
Oui, mais évidemment j'ai appris beaucoup de choses, parce que déjà pour travailler le rôle j'ai regardé beaucoup de documentaires sur cette époque-là, mais surtout c'est l'époque de mes parents, et mes parents m'ont beaucoup parlé de cette époque-là, et c'est tellement vrai, on voulait les envoyer en CAP, alors que peut-être ils avaient d'autres possibilités, on voulait les mettre dans des cartons, alors que peut-être ils voulaient faire des grandes études, faire des grandes choses. Donc je trouve que c'est très intéressant de jouer ces rôles-là, parce qu'on apprend énormément sur une autre génération, parce que moi c'est pas ma génération, sur une autre génération, sur un autre univers, une autre culture, mais d'une époque différente. Donc c'était tellement intéressant de travailler ce rôle-là. Merci beaucoup, Maït.
Bon, vous avez fait votre part de Gaulois, en tout cas, pour faire un petit jeu de mots. Ça s'appelle Ma part de Gaulois. C'est un film à ne pas rater, sorti 31 janvier, en tout cas, dans les salles. Je vous conseille d'aller voir. Voilà, vous allez apprendre tout plein de petites choses. On va sourire, parce que c'est aussi de la comédie. Voilà, il y a des moments d'émotion. Il y a vraiment plein de choses différentes, en tout cas, dans ce film. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, en tout cas, pour ce film, à tous les deux?
Que les gens viennent voir le film, parce que c'est drôle, c'est sensible, c'est poétique. C'est une belle surprise, vraiment.
Pour toi, Dada.
On espère que les gens vont se l'approprier. Donc appropriez-vous ce film, il est à vous. Force et honneur, merci beaucoup.
Allez, ne bougez pas, on revient dans un tout petit instant avec notre spécial La Tribu. Tout cela, je te le donnerai. David Bayo et Samuel Labarthe arrivent dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, Chut, on écoute la télé.
Je lui écris, j'avoue, c'était hier chez nous. De nouveaux pièges, c'est lourd, je sens ses yeux, amour. Mais c'est pas pour elle que je fonds, puisqu'au fond, elle n'aime pas les blondes. Mais c'est pas pour elle que je pars, à mon égard, son cœur déclare.
C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre notre spécial La Tribu. C'est ce soir sur TF1 le grand lancement de votre nouvelle série qui est produite notamment par Thierry Sorel et Harold de Valentin qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On va être rejoint d'ici quelques instants par Alix Poisson aussi hein, qui joue un très joli rôle, vous allez voir, dans cette série. Mais d'abord déjà, où est venue l'idée? Parce que c'est tellement d'actualité aujourd'hui, les familles recomposées, que franchement, bah, ça manquait. On a eu Les Voisins avec Fais pas ci, fais pas ça. On a eu, voilà, tout plein de séries qui traitent un peu justement des couples. Mais sur le thème de la recomposition un peu des couples, là, c'est un petit peu nouveau et c'est bien parce que c'est dans l'air du temps quand même, plus que jamais. Qui s'y colle? Harold.
En fait, j'étais à un festival en Allemagne et je suis tombé sur cette série suédoise qui s'appelle Bonus Family, sur une famille recomposée, qui travaillait plein de sujets qui m'intéressaient, la culpabilité, l'envie de vivre ensemble dans un monde plus complexe, qui était un peu drama. Et moi, j'avais envie vraiment de faire une dramédie pour l'adapter à la manière française, plus fun, plus fantaisiste que les Suédois avaient fait, mais en gardant cette thématique profonde de comment on arrive à vivre ensemble aujourd'hui quand c'est plus compliqué qu'avant.
Et c'est ça que j'ai pu voir les deux premiers épisodes pour le coup avant tout le monde. Et c'est vrai que les enfants sont souvent au centre de la réunification en quelque sorte.
Mais c'est ça la famille recomposée. Hein. Il y a le ciment du couple et puis il y a les enfants, mais il y a aussi les ex. Et ce que propose la tribu, c'est ça, c'est revisiter la famille. C'est une histoire qu'on voit en série depuis très très longtemps. Hein. On en a parlé de S'il fait pas ça, évidemment, de toutes ces séries qu'on a tous adorées. Là, voilà, la famille change dans la vraie vie. Et en fiction, on joue cette partition. La famille recomposée, il y en a de plus en plus. Tout le monde connaît ça, mais en même temps, ça ne parle pas qu'aux familles recomposer cette série, parce que franchement ce qui se joue sur les rapports entre les enfants, les rapports entre les parents, les jalousies, les culpabilités, les envies, l'envie de grandir, l'émancipation, ça marche dans toutes les familles. Tout le monde.
Et les ex.
Alors, ça, quand il y a des ex, chacun sa manière de vivre les ex. Là, c'est de la fiction, on pousse le bouchon juste au bon endroit pour en rire.
Alix Poisson et Jonathan Zakaï qui incarnent justement cette famille recomposée. Tous les deux, ça a été une évidence. Pourquoi eux, Harold ?
Pour réussir une bonne comédie, il faut d'excellents acteurs qui sachent garder leur sincérité dans toutes les situations les plus burlesques, les plus drôles, les plus fantaisistes. Et Jonathan et Alix, c'est de formidables acteurs d'abord, mais qui adorent la comédie aussi. Et ensemble, ils avaient très envie de jouer ensemble. Et donc, quand on a pensé à eux, ils étaient ravis de lire ces textes et ils ont tout de suite dit oui.
Et puis, ce qui est bien, c'est qu'avec deux comédiens comme ça, c'est des comédiens qui savent tout faire. Quand on voit Alix dans L'enfant que je n'attendais pas, ou qu'on voit Alix dans une comédie comme La Tribu, ou Jonathan dans L'homme de nos vies est là, on voit que c'est des comédiens qui sont capables de jouer n'importe quoi. C'est ça qui est assez dingue.
Bien sûr, là, c'est des comédiens hors pair. Et il faut ce niveau, cette qualité. Et comme vous l'avez pu le remarquer, c'est l'ensemble des comédiens de La Tribu qui sont vraiment formidables. Tous formidables.
Les enfants, casting des enfants est chouette aussi.
Et là, on a un niveau de jeu assez exceptionnel. Et comme le dit Harold, la comédie, c'est très, très, très dur à jouer. Très, très dur. Faut s'écouter, faut se regarder, faut des réactions, faut proposer beaucoup de choses, faut qu'il y ait la mayonnaise prenne entre tous les personnages. Et là, on a un niveau de qualité de jeu extrêmement rare.
On a quand même l'impression que la comédie, c'est votre créneau, hein, quand même, parce que dans la comédie, on a maintenant la comédie familiale avec La Tribu. Vous êtes aussi producteur de Tropique Criminelle, qui là, on est dans la comédie policière. Donc, c'est vrai que vous mettez toujours une touche de comédie dans vos fictions. Et ça, c'est chouette. Et puis 10% aussi, bien sûr.
10%, c'était ma première série en tant que producteur, coproducteur avec Dominique Besnéard. Et moi, j'adore cette idée que c'est aux enterrements qu'on pique les meilleurs fous rires. Et donc, il faut réussir le drama et puis derrière, amener une couleur de fantaisie à chaque personnage. Et là, on peut rire de nous, rire des choses qui nous inquiètent le plus. Et c'est un grand soulagement de rire de tout ça.
Moi, c'est pareil en tant que producteur, parce que là, on coproduit cette série ensemble, mais on fait chacun nos productions. Mais moi aussi, j'adore ça, j'adore ajouter un petit peu de comédie. Hein. J'ai toujours envie de me retrouver à la place du public, avec cette envie c'est truculent quand même, c'est toujours le plaisir un peu ultime d'être chez soi, de regarder ensemble. Pouvoir regarder ensemble en plus les programmes, c'est-à-dire en famille éventuellement, c'est quand même formidable. C'est de plus en plus rare, parce que maintenant les consommations sont très éclatées, avec chacun dans ses communautés, chacun dans ses réseaux. Et c'est pourtant un bonheur, un vrai bonheur. Et moi j'adore ça à titre personnel, en tant que spectateur et donc en tant que producteur. Oui, tout à fait, la comédie.
L'objectif, évidemment, c'est d'en faire une série qui va continuer, de faire déjà peut-être une saison 2. Est-ce que vous en rêvez ? Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Est-ce que c'est déjà en écriture ? Où vous en êtes un peu sur cette réflexion, tous les deux ?
On a très envie de faire plusieurs saisons, de suivre cette tribu à l'équilibre très instable, de voir les enfants grandir, etc. Donc on va commencer à s'atteler à l'écriture de la saison 2 pour pouvoir être prêt à tourner la suite.
Essayer de livrer peut-être une saison par an ou tous les un an et demi en tout cas.
Voilà, c'est ça, c'est de la dentelle fine, hein. On n'est pas dans de l'industrie audiovisuelle, donc ça demande beaucoup beaucoup de travail à l'écriture, à la réalisation et au jeu. Donc nous on aimerait bien voilà tenir le rendez-vous de la proposition, oui allez tous les 12, 13, 14, 15 mois, je ne sais pas exactement, mais on aimerait bien tenir le rendez-vous et faire durer cette série, parce qu'on pense aussi qu'il y a la matière, il y a le talent, il y a la matière.
Si on devait résumer 5 premières minutes pour donner envie aux gens d'y aller ce soir.
C'est comment ce couple qui s'aime va résister à tous ceux qui déboulent dans leur chambre, dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur jardin, et comment ils vont résister à tout ça et réussir à préserver leur amour et que leur amour fasse tenir tout cet ensemble complètement instable.
C'est pas mal, y compris dans la piscine à boules. Mais il y a des scènes, assez, assez truculentes, en tout cas déjà dès ce premier épisode que vous allez pouvoir voir ce soir. La Tribu, nouvelle série à ne pas manquer. Ça débarque ce soir à 21h10 sur TF1. Et puis, on va parler juste de vos projets, tous les deux peut-être en production. J'imagine que la sixième saison de Tropic Criminel va partir en production, que la saison 5 va arriver aussi pour ce printemps sur France 2.
Ben voilà, vous avez tout résumé. une petite affaire qui se poursuit sous les Antilles. Toujours notre duo fantastique, Sonia Roland et Béatrice Delaboulay, qu'on retrouvera dans Tropic Criminel saison 5 à l'antenne bientôt. Et une saison 6 qui est en préparation, qui est bien avancée. Et, avec encore plus, puisque maintenant c'est un cadre de série policière, mais on commence à connaître bien les règles de la partie policière, donc il y a de plus en plus de place pour les personnages et de plus en plus de place pour les voir vivre notre duo, et donc de plus en plus de comédie.
Donc on se délecte, évidemment, en les regardant toutes les deux, parce que franchement, on prend tant de plaisir qu'à mon avis, elles en ont, elles, à tourner. Ouais, j'ai l'impression. Harold, les projets ?
On va tourner la suite de Poulet Grillé pour France Télévisions, et on prépare en ce moment l'adaptation d'un grand roman français pour une plateforme dont je ne peux pas encore dire le nom.
Voilà, 10%.
Et 10% le film. On est en écriture du film qu'on tournera l'année prochaine, et avec tous les comédiens et des nouveaux guests et des nouvelles intrigues. Ça sera un film de 2 heures, je pense, à voir en 2025.
Et donc ça sera pour le cinéma ?
Probablement.
La télé.
On n'a pas encore décidé. On est en train de regarder comment on va le sortir. On a très envie, en tout cas, de conclure l'ensemble de l'aventure de 10% à travers ces 2 heures de film.
Merci Harold, merci Thierry. La Tribu, ce soir, 21h10 sur TF1, on se quitte avec la bande-annonce. Et on revient juste après avec Alix Poisson. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Martin m'a tellement parlé de votre merveilleuse famille recomposée.
Alors, en vrai, c'est mon cousin ?
Non, c'est ton demi-frère.
Par alliance et par erreur.
C'est normal, ça fait juste une semaine qu'on vit ensemble, c'est ça la famille recomposée. Hein.
Dis-moi, j'ai envie de la recomposer avec tout le monde, cette famille.
Je te préviens, ça va pas être hyper cool. Au mieux, ce sera... cool.
Ça serait peut-être bien que tu conduises un petit peu avec papa. Je te rappelle que papa, il a perdu son permis.
Je peux conduire avec toi si tu veux.
Je préfère conduire avec quelqu'un de ma famille, en fait. Je suis désolée, je suis un petit peu en retard.
Venir chercher les enfants à l'école, c'est en option dans ton agenda.
J'ai 20 minutes de retard, là.
Non, 29, presque 30.
On est des super parents.
On est des super parents.
Ils sont punis, tous les deux.
Mais j'ai rien fait.
Dans ta chambre.
Ils ont la même chambre.
Oui. Dans le jardin. Voilà. Punis dans le jardin.
La Tribu, votre nouvelle série, lundi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Allez, on continue à parler de La Tribu. C'est ce soir sur TF1, le rendez-vous évidemment est pris. Merci Thierry, merci Harold en tout cas d'avoir été avec nous. On continue. Alix Poisson, chose première, chose due, elle est là avec nous. Bonjour Alix.
Bonjour.
Et puis avec une jolie surprise aussi, Jonathan Zakaï est là aussi, c'est presque un sociétaire aussi de l'émission. Bonjour mon cher Jonathan.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là tous les deux, Martin et Camille. C'est ses parents qu'on va retrouver ce soir avec cette famille recomposée qu'on va découvrir. Et puis tous ceux qui gravitent autour. Première chose, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre cette aventure, de suivre Harold et Thierry dans cette aventure?
L'enthousiasme d'Harold, déjà, qui était grand et très porteur. Les scénarios, toujours, c'est la base, mais c'est vrai qu'il y avait un ton qui était très, 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 très agréable, et puis une qualité de dialogue. Chaque personnage était complexe, ambivalent, et voilà. Et puis moi, savoir que c'était Jonathan qui faisait Martin.
Pas mal, ça, déjà, comme raison.
Oui. Alors, je vais commencer par ça aussi. C'est vrai que moi aussi, c'était une des raisons, évidemment, c'était ma partenaire de jouer avec Alix, de la retrouver sur une comédie, de faire de la comédie aussi. Et puis oui, porté par un producteur et des producteurs qui étaient très, très enthousiastes. Et puis, c'est, voilà, de jouer le quotidien, en fait. Moi, je le quotidien dans ce qu'il a de plus diversifié et de tous les reliefs de cette famille et de ce couple. Voilà.
Alors, c'est une histoire d'anniversaire qui va mettre un peu le feu aux poudres, puisque vous avez des enfants qui vont fêter leur anniversaire en même temps, mais qui sont recomposés. Donc tous les deux sont pas frères et sœurs, mais plutôt demi-frères. Et évidemment, entre les ex et tout ça, il va falloir que tout le monde s'entende pour arriver à fêter cet anniversaire comme il se doit. Alors comment ça va se passer? Est-ce qu'on va réussir à réunifier tout le monde? C'est ce qu'on va découvrir en tout cas dans ces deux premiers épisodes ce soir. Comment on pourrait définir déjà Camille, vue par Alix Poisson?
Camille, c'est quelqu'un qui est très... qui s'est fait un peu une devise de vie, c'est-à-dire que on comprend très vite qu'elle elle a pas eu une enfance hyper facile, mais on s'attarde pas du tout dessus, mais elle a plus ses parents et donc elle a décidé de toujours voir, c'est comme la chanson c'est les Monty Python, de toujours voir le bon côté de la vie, de toujours être hyper positive, de toujours partir du principe que tout peut s'arranger, que les gens vont bien s'entendre, mais des fois trop, donc elle est dans un petit déni, parce qu'une famille recomposée, en fait, à la base, ça ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire c'est quand même forcer des gens à vivre ensemble qui n'étaient pas destinés à vivre ensemble, qui n'ont pas les mêmes modes de vie et qui ne sont pas obligés de s'aimer. Mais elle, elle part du principe que si, de toute façon, ça marchera. Et en fait, ils s'aiment tellement avec Martin que c'est impossible pour eux que ça ne marche pas. Il faut absolument que ça marche. Et après, ce qui était rigolo à faire, c'est qu'elle est très très bordélique, elle est très foutraque, elle est très excessive et que ils sont un peu, il y a un petit côté yin et yang un peu. Voilà.
Moi, j'allais dire en deux mots éternel optimiste pour Camille. C'est vraiment ça qui me venait tout de suite quand j'ai vu les épisodes. C'est vraiment éternel optimiste. Puis c'est un peu le yin et le yang, effectivement, avec un Martin qui la temporise quand même tant qu'il peut.
Oui, c'est ça. Mais, ben, j'aimerais bien tout contrôler, tout anticiper. C'est impossible. Et puis en même temps, malgré le fait que je sois dans le contrôle soi-disant, j'ai plein d'échappées aussi. Mon personnage est, malgré lui, dépassé aussi finalement. Et il essaye de jouer le jeu du contrôle, mais ça ne marche pas parce qu'elle est, elle est très, très, comment dire, très, très
envahissante.
Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que les enjeux, alors l'anniversaire dont tu parlais, c'est un des enjeux des deux premiers épisodes, il y en a d'autres, mais c'est vrai que ce que j'aimais aussi et ce que je trouve passionnant dans l'histoire d'un jeune vieux couple, parce que finalement on est un jeune, non pas qu'on soit vieux, mais que on est quand même voilà, il y a toute une vie derrière déjà et qu'on commence notre vie, et donc finalement ce qui est marrant, c'est de commencer cette histoire avec un couple qui finalement commence avec des bagages qui sont pas ceux d'un jeune couple, quoi. Donc forcément on n'est pas juste deux, on est toute une tribu, voilà, et donc les enjeux qui pourraient, comme l'anniversaire, c'est vrai que ça sonne comme ça, tu dis c'est quoi le problème, il y a pas de problème, un anniversaire à fêter, et ben si justement ça devient un enjeu incroyable avec des personnages, chacun a son mot à dire, les conflits peuvent partir de on ne sait pas d'où, et donc c'est ça qui est marrant dans la comédie, c'est que finalement les enjeux les plus absurdes deviennent des enjeux majeurs, capitaux, quoi.
Mais oui, comme Noël et anniversaire, c'est souvent les deux enjeux qui sont les plus cruciaux, hein, dans ce genre de situation.
Forcément.
Bon, j'ai Harold et Thierry qui disaient il y a un instant qu'ils ne pouvaient pas tomber mieux avec vous deux. Ils disaient, ces deux comédiens, ils sont capables de tout jouer. Alors effectivement, Jonathan, quand on te voit dans L'Homme de nos vies, qu'on te voit là, Alix, quand on te voit dans L'Enfant que je n'attendais pas, ou qu'on te voit là, c'est là qu'on se dit, vous êtes capables de tout jouer tous les deux, mais qu'est-ce qui est le plus pointu pour vous? Est-ce que c'est plutôt le drame ou c'est plutôt la comédie? On dit souvent, pour un comédie est beaucoup plus difficile.
Il y a un truc que tu peux pas contrôler en comédie, je trouve, c'est que c'est compliqué de faire une comédie s'il y a pas, moi je trouve, hein, une vraie alchimie entre les partenaires. Il faut toujours qu'elle soit là, cette alchimie. Mais bon, on sait bien que des fois elle est là, des fois elle est pas là. En comédie, je trouve ça difficile parce que c'est presque comme une, vraiment, hein, il y a un endroit où il faut qu'on joue une symphonie tous ensemble, chacun a son instrument. Mais s'il y en a un qui est un peu dérythmé, s'il y en a un qui est pas, si on n'est pas dans le même biorhythme, je sais pas comment dire, si on n'a pas saisi ensemble la pulsation du truc, en fait, ça ne marche pas. Et là où c'est hyper agréable, mais tu peux pas le savoir à l'avance, c'est quand le premier jour tu commences à tourner et tu te dis ah oh ben voilà, non mais là c'est bon, je veux dire, hop, je change un truc, il me répond tout de suite, lui il change un truc, j'adore, ça me fait rire, hop, j'improvise derrière, hop. Et en fait avec Jonathan, nous deux, ça a fait ça dès le premier jour. Donc je sais pas ce qui est le plus dur, parce qu'en fait c'est la même sincérité. Enfin, moi j'avais un prof au conservatoire qui me disait toujours, de toute façon quand tu joues une comédie, ton personnage il joue un drame, hein. Ça fait rire le spectateur, mais en fait ton personnage, lui, il vit un drame. Martin et Camille, ils vivent une tempête sous le crâne qui est pas possible. Donc je sais pas ce qui est le plus dur, mais il y a un truc impalpable que tu peux pas prévoir à l'avance en comédie qui est pas évident.
Ouais, l'alchimie entre les acteurs.
Moi, alors l'alchimie entre les acteurs, vu que tu as très bien développé ce sujet, je vais passer là-dessus, parce que je suis évidemment d'accord sur le fait que c'est une réactivité des deux qui fait que ça se passe ou pas. Par contre, je trouve quand même que la comédie est un peu plus difficile, peut-être dans le sens où il y a un troisième partenaire que tu ne peux pas contrôler, qui est le public. C'est-à-dire qu'en fait, le drame, je pense franchement que si je traverse une rue, que je prends un poignard et que je me tue, j'ai quand même beaucoup de chance d'imaginer que les gens vont être un peu bouleversés de voir ça. Par contre, la comédie,
tu
sais pas trop, ouais. Tu peux pas contrôler, tu peux pas anticiper le fait que la spontanéité des scènes, les choses vont prendre ou pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est la première fois, moi j'ai pas assisté. J'aime bien en général assister au projo ou quoi, mais là j'ai trop peur parce que je me suis dit je vais être dans l'attente de tiens, est-ce que ce petit truc là marche, est-ce que celui-là, voilà. Donc on a quand même un truc qu'on contrôle pas du tout. Je dis pas qu'en dans les drames tu peux très bien aussi voilà te rater, mais quand même t'as plus de chances d'attraper les gens sur des choses quand même très très violentes ou dures ou je sais pas, et tandis que la comédie c'est quand même un mystère.
Et puis tu peux pas te réfugier derrière oui mais c'est pas grave, au montage je ferai ce que je veux. Moi j'y crois pas du tout à ça en comédie, et je l'avais hyper expérimenté sur Parents Mode Emploi. C'est-à-dire que si la scène, quand tu la tournes, il n'y a pas le bon rythme, il n'y a pas la bonne pulsation, il n'y a pas le truc qui circule, tu peux sauver des trucs au montage, mais tu sauveras pas tout, c'est pas vrai. Ça, j'y crois pas.
En tout cas, ça, c'est la magie d'une super réalisatrice aussi que vous avez eue sur ces premiers épisodes, qu'on embrasse fort, en tout cas. Merci d'avoir terminé cette spéciale avec nous. Alix, Jonathan, on vous embrasse très fort et on vous dit, en tout cas, à très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Oui, merci à toi, à bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre notre spécial Tout cela, je te le donnerai. Ça débarque sur France 2, la nouvelle série événement avec Édouard de Vézine, un des producteurs qui est avec nous. Bonjour Édouard.
Bonjour, merci.
Merci d'être là. Et puis Nicolas Guichetot également qui est le réalisateur. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Où est né ce projet de cette histoire de famille, de grande famille, d'héritage? Il y a plein de choses qui viennent se percuter justement dans cette histoire et on va en parler. C'est tellement contemporain et c'est certainement des choses dont vont avoir à faire beaucoup de notaires et à l'avenir aussi, ces histoires de famille. Alors, où est venue l'idée? Qui l'a eue déjà, Édouard?
Alors, l'idée est née dans le cerveau d'une grande autrice espagnole qui s'appelle Dolores Redondo, qui écrit des livres qui se vendent dans le monde entier et qui a inventé, créé cette histoire et écrit ce livre, Tout cela je te le donnerai, qui est sorti en Espagne où il a eu un immense succès, il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, il a eu les plus grands prix littéraires et ça nous est paru très intéressant parce que l'Espagne est assez en pointe à la fois sur les combats sociétaux, sur le mariage pour tous et qu'il y a aussi cette lutte sourde entre les combats sociétaux et une société qui est très ancrée dans une forme de ruralité, de traditionnalité, qui est un des sujets de l'histoire, ce conflit de société entre nos deux types de personnages nous a paru intéressant à retranscrire et à réinventer en France. Voilà.
Nicolas, qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet ?
La modernité de l'histoire, tous les sujets abordés à travers des personnages extrêmement forts. Voilà, il y avait tous les éléments dans cette histoire, donc l'histoire écrite par Dolores et les scénarios écrits par Pascal. J'avais toutes les cartes en main pour faire le film que vous avez vu, c'est-à-dire un film qu'on a envie de suivre jusqu'au bout pour essayer de comprendre la trajectoire des personnages, pour essayer de résoudre aussi cette intrigue de polar qui coexiste avec l'intrigue saga. Voilà, tous ces mélanges et tous ces personnages, ce côté choral, on peut pas rêver mieux pour faire des films en fait. Voilà.
Ça fait très grande saga d'été. C'est ce qui m'a frappé aussi. C'est vraiment le type de série qui fait vraiment qui réunit tous les ingrédients à succès d'une grande saga d'été.
Oui, parce que je pense que c'est parce qu'à l'origine, c'est une grande œuvre littéraire où on va très loin dans les histoires des personnages et dans de nombreux personnages. Donc, on a une matière à la base qui est très riche, en fait, pour pouvoir inventer des histoires. Et ce qu'il faut pour... Il n'y a pas de formule, évidemment, pour réussir une histoire. Mais en tant que producteur, comme je pense en tant que réalisateur, ce qui nous fait tilter quand on lit une histoire, c'est l'efficacité de l'histoire, le fait qu'on tourne les pages, qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, les rebondissements qui sont permanents dans notre histoire. Et en même temps, d'avoir aussi un contexte un peu moderne, un peu innovant, qu'on n'a pas encore vu, quelque chose de sociétal qui dit quelque chose de la société. Et là, il nous semblait que ça cochait vraiment ces deux cases de manière très puissante.
On va suivre le destin de Manuel, qui est un auteur à succès dans cette série, qui va apprendre de façon très abrupte la mort de son mari. 20 ans auparavant, son mari s'était fâché avec sa famille, il était issu d'une grande famille pour le coup. Mais ce que ne sait pas Manuel, c'est qu'il a renoué, justement, son mari a renoué avec sa famille 6 ans auparavant la mort de son père. Et donc, là, pensant qu'il était à Bruxelles, mais en fait, il était dans sa famille et va être retrouvé mort à la suite d'un accident de voiture près de chez sa famille. Mais l'histoire aussi, c'est que cette famille ne sait pas que leur fils est marié, et encore plus avec un homme. Et donc, ça va être le choc, évidemment. Et Nicole Calfan, matriarche impitoyable, qui est exceptionnelle. Et quel plaisir de voir Nicole Calfan dans un joli rôle comme ça aussi.
Bon, bah, je crois, oui.
C'est bien résumé.
Oui, c'est très très bien résumé. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que ça a été encore une fois un vrai plaisir de travailler avec cette troupe de comédiens jusqu'au bout, vraiment.
Ça va être un peu à couteau tiré, on va en parler avec Aurélien et David, hein, qui vont nous rejoindre justement dans un instant. Aurélien qui est déjà pas très très loin. On peut lui dire bonjour d'ailleurs. Bonjour Aurélien.
Bonjour, moi j'étais juste venu pour écouter.
Mais... oui, mais tu vas rester avec nous aussi dans un instant, Edouard.
Si je peux me permettre, pour qu'il y ait un bon film, il faut qu'il y ait des bons méchants, et il faut qu'il y ait des méchants savoureux et auxquels on s'attache. Je ne sais plus qui disait en parlant des scénarios, dans une bonne histoire, tout le monde doit avoir ses raisons. Même le pire des salauds doit avoir ses raisons pour qu'il ait une forme d'humanité et qu'on puisse s'attacher à lui. Et là, je pense qu'on est servi parce que tous les personnages, en fait, on s'attache, et tous les personnages sont, je vais pas dire qu'ils sont sauvés, parce qu'il y a quand même des coupables, il y a quand même des criminels, etc. Mais malgré tout, ils ont tous des raisons très, très fortes et très profondes et des fêlures très fortes qui les font agir comme ils le font.
Il y a vraiment, chaque personnage a son importance. C'est des pièces du puzzle qui sont toutes importantes. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de personnages superflus, ils sont tous là, ils ont tous une place. Et c'est ça qui est appréciable quand on regarde justement cette série, parce qu'il y a tous les ingrédients. Alors évidemment, ça serait pas marrant si ça s'arrêtait qu'à l'accident de voiture, ce serait pas intéressant, mais là où on va pousser un peu le curseur, c'est que Manuel, lui, va être persuadé que c'est pas un accident. Et donc, il va y avoir toute une enquête en parallèle menée par Bruno Solo aussi pour découvrir. C'est une quête de vérité aussi, cette série.
Absolument. On part sur un mensonge, on part sur une dissimulation, on part sur quelque chose d'universel qui est qu'en fait, on vit avec quelqu'un, on est marié avec quelqu'un, on pense tout savoir de lui. Et en réalité, il y a des secrets, en réalité, il y a des choses qui nous cachent. Et ça, c'est universel.
On va dire que Emmerich en a bien des choses qu'il a cachées.
Et tout le monde se ment. Geoffrey se ment. Tout le monde se ment et tout le monde ment dans cette famille. Et même d'ailleurs le personnage de Bruno Solo a aussi des secrets lourds qui vont être révélés au fur et à mesure de l'histoire d'ailleurs.
On a hâte de voir ça. Hein. En plus, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir le voir si vous avez. L'impatience de découvrir la suite, ça sera également en intégralité sur France.tv, évidemment, dès la diffusion des deux premiers épisodes. Donc ça, c'est très très bien aussi. Est-ce que vous avez un souvenir particulier, alors je m'adresse plus à Nicolas là-dessus, de tournage à nous raconter? Parce qu'en plus, il y avait souvent beaucoup de monde devant la caméra. Hein.
Ouais, mais je crois que je reste profondément marqué par le cliff du premier épisode, en fait. Où on avait choisi ce château ensemble avec la production et j'ai insisté lourdement pour que cette chapelle qui appartenait au château soit finalement utilisée pour la cérémonie d'enterrement et en fait je me suis retrouvé avec toute l'équipe du film, plus tout le casting, plus tout le monde. C'était vraiment une énorme journée. Et on devait faire rentrer tout ce monde-là dans une petite chapelle de 20 mètres carrés. Et je trouve que ça raconte assez bien ce que c'est faire un film, en fait. Il faut vraiment intégrer tout pour que ça devienne une histoire. Et donc, voilà, cette journée-là, je pense que c'est à l'image de ce qu'a été le film aussi, quoi. C'est-à-dire à la fois grave et léger, enfin et solaire, comme on a pu le dire tout à l'heure. J'ai bien aimé cette journée.
Moi, j'ai été frappé par la scène du notaire, qui était vraiment très très forte aussi. Hein. Nicole Calfan, Aurélien Vic, ils ont donné beaucoup sur cette scène-là aussi. Cette scène était assez incroyable, Aurélien.
Ouais, mais c'est un souvenir très marrant d'ailleurs, parce que il nous avait pas dit où nous asseoir, mais il avait une idée en tête et il nous a juste dit action. Et en fait, on est rentré, on s'est regardé les uns les autres. Donc évidemment, la mère se mettait au milieu et puis après, toi, non, toi là. Et en fait, cette espèce de gêne qu'on voit dans la scène, ce petit moment comme ça à pas savoir où s'asseoir, eh ben, elle est vraie. Et c'est chaque acteur qui s'est dit, tiens, mon personnage, il devrait être là. Et c'est exactement la disposition qui s'était fait dans la tête. Il a même pas eu besoin de nous le dire, quoi.
On va écouter la bande-annonce, on revient juste après avec toi Aurélien, qui va être rejoint par David Kamenos également. On en parle aujourd'hui de cette série événement, tout cela je te le donnerai, ça débarque sur France 2. On écoute la bande-annonce et on revient juste après, à tout de suite.
Je suis absolument certain qu'une bagnole l'a balancé dans le décor et qu'on l'a assassiné. Ce que je fais là, c'est une enquête parallèle. Hein, c'est complètement illégal. Si ça se sait, je serai obligé de vous tirer une balle dans le genou.
Vous êtes un gros con en fait.
Ouais, mais avec un putain de flair. Un vrai truffier.
Tout cela, je te le donnerai. La nouvelle saga événement, mercredi soir sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, tout cela, je te le donnerai. On revient avec Aurélien Vic et David Kamenos qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Salut.
Manuel et Geoffrey dans la série. On a planté un peu le décor avec Edouard et Nicolas à l'instant. Manuel, cet auteur de renom qui va découvrir bien des choses sur son mari, que c'est plus un jardin secret, hein. C'est une propriété secrète qu'il va découvrir, hein.
Ouais, c'est énorme. Bah, c'est ce qui se passe souvent déjà au moment du deuil, où tu t'aperçois que qu'est-ce qui se passe au moment du deuil de la personne aimée, comment tu peux continuer à l'aimer. Et là, je découvre à ce moment-là que c'est un inconnu, en fait. Donc c'est une double perte. Voilà, c'est ça qui va me traverser.
Et à la fois, ça va être un combat qui va être mené par Manuel pour découvrir la vérité, parce que lui seul est persuadé que c'est pas un accident de voiture, mais que c'est peut-être même un assassinat. Et il y a toute une enquête qui va être menée, hein, autour.
Oui, mais c'est aussi un combat de décider de mener cette enquête, de décider de savoir la vérité. Le combat, le vrai combat, il est là. Est-ce que je veux fermer les yeux, ou est-ce que je veux savoir? Parce qu'il y a une peur de ce que je vais découvrir. Et c'est le personnage de Bruno qui va m'accompagner et m'aider à aller braver ça, quoi.
Alors, personnage de Geoffrey, c'est le petit frère d'Emeric, en fait, qui est décédé et qui a une charge familiale absolument épouvantable, on peut le dire, avec une matriarche de main de fer, et qui, lui, va se retrouver un peu à la tête de tout ça, de la propriété. Enfin, il croit, du moins, mais il n'est pas au bout de ses surprises.
Bah, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout été préparé à ça, en fait. Il n'était pas censé être celui qui allait récupérer le château. Et qui est dans des tourments terribles, parce que c'est pareil pour son frère, en fait. Lui aussi cache énormément de choses de sa vie, parce que dans sa famille, il ne peut pas être lui-même et il ne peut pas dire tout ce qu'il est.
Il y a des scènes entre vous deux, mais anthologiques, hein. Il y a des scènes d'une froideur, mais dingue.
Oui. Ouais, c'est toujours assez difficile à faire. Mais quand on s'entend bien avec la personne. Mais c'était marrant parce que David avait un fonctionnement que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il se mélangeait pas trop à nous au début. C'est venu petit à petit pour pouvoir garder cette distance et cette froideur, et pour pas, je pense, être trop dérangé et déconcentré par plein de choses. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Quand nous, on s'est plutôt mis en famille quand même, malgré ce qu'on voit dans la série, on s'est quand même mis un peu en famille pour créer un peu
un clan. Créer
un clan, des habitudes et tout. Donc c'est assez marrant de voir que sur un plateau, on fait ça aussi. C'est-à-dire que ça se réfléchit aussi de cette manière-là. Et c'était très frustrant de ne pas pouvoir le voir plus au début. Mais c'est ce qui fait que dans les scènes, on ne se connaît pas, on se découvre, il y a un peu de distance. Et c'est hyper intéressant.
Moi, la scène du notaire reste hyper forte, hein, puisque là, tu prends tout, David. Hein, le personnage de Manuel prend tout. Et en plus, il doit en plus s'extraire le temps que le notaire apprenne tout aussi à la famille. Et toi, tu regardes par la porte ce qui se passe, leur réaction. Et cette scène, elle en dit énormément, justement, sur tout ce que cachait Emeric, et que ça soit caché à sa famille, du côté de sa famille ou de son mari. Et ça, c'est des scènes très fortes. Hein.
Mais de voir la mère de l'homme que j'aime, le frère, enfin voilà, à travers une porte. Enfin, c'est très très touchant, ce moment-là. Très touchant, je crois.
Pour moi, elle est vraiment une force forte.
Pour moi, elle était très bizarre, parce que je m'étais préparé d'une manière, et d'un coup, je me disais, mais il est où? Je parlais de David, tu vois, parce que dans la mise en place, il n'était pas encore là et tout. Et je l'ai vu arriver avec son émotion, et c'est hyper difficile, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, et je l'ai vu arriver avec son émotion, et je me suis dit, te laisse surtout pas toucher par ça. Et donc, il a fallu que je garde cette froideur, alors que je le trouvais extrêmement touchant, et son émotion m'a énormément parlé, mais voilà, j'étais comprimé, quoi. Je me disais, non, surtout pas. Et quelque part, ça ajoute aussi, on le comprend pas tout de suite, mais plus tard, la fragilité qu'il peut y avoir dans cette scène, en fait.
C'est vraiment tous les ingrédients d'une grande saga d'été. On le disait, il y a un instant, on a vraiment du romanesque, on a du familial, on a du combat de famille. C'est quelque chose aussi de très contemporain aussi. C'est quelque chose dont vont devoir faire face aussi tous les notaires, etc. à venir, parce qu'entre les mariages pour tous et puis aussi surtout toutes les familles recomposées, ça va créer de sacrés dilemmes et de sacrées histoires de famille à l'avenir. Hein.
C'est fait.
On est dedans là.
C'est ce que les gens vivent. Voilà, c'est déjà une réalité. Après, voilà, c'est ce qu'on se disait. Ce qui me touche là-dedans, c'est que ce ne soit plus un sujet, en fait. Que ce ne soit plus le sujet. Voilà. C'est un sujet de l'intimité, de la vie. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet. Donc c'est là où la saga, on a ces codes de saga. En même temps, c'est pas totalement une saga. En même temps, le personnage principal est homosexuel, mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà, c'est ce qui est assez touchant, c'est qu'on nous balade un petit peu à des endroits où on sait pas trop où on va, et ça, c'est plutôt chouette.
Ouais, moi j'étais très heureux quand le mariage est arrivé pour les homosexuels, parce que j'ai un souvenir quand j'avais 14 ans, mon voisin, c'était un couple de voisins, et l'appartement appartenait à l'un des deux, et il y en a un qui est mort assez brutalement. Et l'autre n'avait le droit à rien. Et je sais que ça m'avait marqué, en fait. On était en 94, j'avais que 14 ans, et ça m'avait vraiment marqué. Et je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas. Qu'il y ait ces problèmes-là aujourd'hui, pour les notaires, je m'en fous un peu parce que je veux dire, c'est leur boulot et qu'il n'y a plus de problème pour les gens qui s'aiment en fait.
C'est clair. Et puis ça va être aussi des histoires de famille qu'on découvre comme celle-ci. Une enquête. Il y a plein de choses en tout cas parallèles qui se passent dans cette série. C'est passionnant et on se laisse dévorer déjà tout de suite par les deux premiers épisodes qu'on va découvrir cette semaine sur France 2.
Ce qui est bien aussi, c'est que pour faire, on en a fait beaucoup, hein, des téléfilms avec des enquêtes tout le temps. Et ben en fait, on parle que de l'enquête, on parle que des petits détails qui font avancer l'enquête tout le temps. Il y a les acteurs quand ils font les mecs de l'IML là et qui ont des répliques techniques qui n'en finissent pas. Et en fait, on a très peu de l'intimité de ces gens-là, de la vie de tous les jours. Et moi, je me souviens d'un truc que j'ai fait il y a pas longtemps où on voit que j'ai une fille, on voit que je suis séparé, mais ça s'arrête là en fait. Et on n'a pas le temps de creuser alors que là, c'est l'inverse.
Ouais, il y a de l'humain quoi. Il y a de l'humain en fait. Après, c'est aussi dû à l'écriture évidemment et à un réalisateur qui a vraiment veillé à ça, à ce qu'on soit vivant quoi, et qu'on parle de la vie.
Et il y a un super casting.
Ouais. Le casting, oui. Et puis on va le recevoir tout au long des semaines de diffusion. En tout cas, tout cela, je te le donnerai. C'est cette semaine sur France 2. Vous découvrez les deux premiers épisodes. Merci David et merci Aurélien, en tout cas, d'avoir été avec nous. Il y aura plein de futurs projets. David, bientôt à l'affiche aussi de répercussions, bientôt aussi sur France Télévisions. Il y aura plein de choses qui arrivent. Merci à tous les deux, en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Tu parles toujours bien des projets.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, plus belle la vie, c'est le retour sur TF1 depuis le 8 janvier. Ça cartonne, mais ça cartonne de ouf. Et on est là, on a été là jusqu'au dernier souffle de la série. Et puis, on a été là, hein, à la reprise, effectivement. Et depuis que le cœur s'est remis à battre, il s'est mis à rebattre deux fois plus fort. Et avec des héros qu'on a tellement plaisir et tellement d'émotions à retrouver. C'est le cas de David Bayo, qui a fait le grand retour de Jawad Sanga. C'est inespéré, un truc pareil, David.
Inespéré, oui, parce que vraiment personne n'y croyait. Et effectivement, quand on a appris que Plus Belle allait revenir sur TF1, ça a été une énorme surprise. Surtout, je pense, pour les équipes techniques qui ont senti un espèce de soulagement. Parce que la fin de ce programme ça fait beaucoup de mal à certaines personnes et à beaucoup de monde d'ailleurs. Donc on est bien content de revenir sur TF1 dans un tout nouveau format, un nouvel horaire, avec des nouveaux personnages et avec des anciens personnages. Et j'ai eu la chance qu'ils me rappellent pour me demander d'être un des personnages de la première intrigue. Donc voilà, j'ouvre un peu le bal. Et j'ai même ouvert le bal des tournages.
Oui, il y a une dizaine de jours, en tout cas on te voit depuis une dizaine de jours à l'écran, depuis le mardi 16 janvier de mémoire.
C'est très très précis tout ça, mais en tout cas le premier jour de tournage, c'est moi qui ai fait la première séquence. Et c'est vrai que revenir sur ce plateau sur lequel j'avais travaillé pendant 10 ans, mais que j'avais quitté déjà depuis des années, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Mais à la fois j'étais ravi, j'avais un petit côté nostalgique et je me suis dit bon ben voilà, une nouvelle aventure qui commence, un nouveau Plus Belle, et je suis content d'en faire partie.
Surtout que je t'avoue que franchement le personnage de Jawad a été un peu sacrifié sur le final de la série France 3, donc c'est chouette de le voir revenir sur le devant de la scène pour cette intrigue événement en tout cas.
Mais je suis ravi de retrouver Elodie qui est devenue une amie mais qui est surtout une partenaire de jeu incroyable, même si on va pas rester très longtemps, on est vraiment là pour cette intrigue de départ, mais au moins on était content de pouvoir participer à ça quoi.
On peut imaginer un succès, évidemment, parce que les gens vous attendaient tellement le retour sur TF1 aujourd'hui. C'est les millions de fans qui se sont mobilisés, qui n'ont jamais perdu espoir depuis plus d'un an de voir la série revenir. Il y a une pression qui a été mise. Mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à 13h40? Je crois que le premier épisode a été vu par 6 millions de personnes en tout, entre les plateformes TFX, TF1+, et qu'aujourd'hui, la série à 13h40, entre TF1 et TFX, c'est plus de 3 millions tous les jours. C'est dingue. Tu t'attendais à ça, toi?
Ah non, mais moi, je m'attendais à rien. J'imaginais que ça allait marcher, mais pas au succès que l'on peut constater. Donc, non, je m'attendais vraiment pas à ça.
C'est une super surprise pour tout le monde.
Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et je le vois, je le ressens, on reçoit des messages. Tout le monde est hyper content. Donc maintenant, il faut garder le cap, garder le rythme, que les spectateurs soient toujours là, qu'il y en a encore des nouveaux qui découvrent aussi la série, pas que les anciens qui sont là depuis toujours. L'objectif maintenant, c'est qu'il y ait des nouveaux spectateurs.
On espère en tout cas que peut-être qu'un jour Jawad sortira d'où il va être, mais en tout cas, on espère peut-être le revoir une autre fois.
Oui, pourquoi pas, on verra bien. Moi aussi j'espère, je pense qu'il en a pas fini.
Non, avec vous. Je pense aussi. Et puis évidemment David, il y a eu les crevettes pailletées. On t'a rencontré à l'Alpe d'Huez où les crevettes pailletées ont été largement mis à l'honneur, même qu'il y a une année, tu as carrément raté parce que je crois que
Covid, hein, un truc comme ça. Et je crois que t'étais tellement peiné, là tu t'es rattrapé cette année.
Bah, je me suis rattrapé cette année, j'ai été invité par, par un partenaire du festival. Donc je suis ravi d'être ici. Et c'est vrai que la fois où on était invité deux fois pour les crevettes pailletées, une fois pour le 1 et une fois pour la revanche, donc le 2. Et le 1 avait été reparti avec le prix spécial du jury. Donc, et cette fois-là, j'étais pas là parce que j'étais en tournage. Et la deuxième fois, j'ai pas pu venir parce que j'avais le Covid. Donc oui, je me suis bien rattrapé. J'aurais aimé participer avec les copains à ce festival tous ensemble, avec cette belle bande des crevettes pailletées. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Les projets pour 2024, David.
Bah écoutez, là j'ai tourné pour la série The Walking Dead, mais qui est tournée en France, donc de Daryl Dixon. Donc je suis très content, j'ai tourné ça il n'y a pas très longtemps. Et là je vais repartir un peu sur Plus Belle aussi.
Bon, bah écoute, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses. Tu sais qu'on te suit, on reste avec toi bien évidemment. Et on te dit à très vite, David, merci.
Merci beaucoup, à bientôt.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
On a souvent parlé sans en parler, j'ai effleuré le sujet. J'avais trop honte de raconter comment je me suis créé un monde isolé. Isolé de tout, des tables de famille, des rendez-vous joyeux que je voulais pas subir. J'avais peur de montrer aux autres que je ne sais pas me nourrir. Mieux vaut se laisser mourir. Si je mange, je vais en enfer. Y'en a que ça dérange. Si je mange, je vais en enfer. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? J'en ai souvent parlé sans en parler, je voulais pas mettre de mots, non. Vous dire que c'est une maladie, c'est vous raconter qui je suis vraiment. J'en ai gommé, dégommé, dévoré, trop bouffé de ce vide immense. Et dire que c'est alimentaire, moi je ne veux que remplir ma panse et toutes mes pensées. Si je mange, je vais en enfer. Y'en a que ça dérange. Si je mange, je vais en enfer. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai pris du recul. Que je considère être un peu sortie de cette étrange bulle. Je crois avoir compris le pourquoi du comment. Même si c'est jamais fini, cette fois c'est différent. Car je vous ai tout dit. Si je mange, c'est pas l'enfer. Si je mange, c'est peut-être le paradis, mais si je mange, c'est pas l'enfer. Même si ça te dérange.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Flair de famille qui fait son grand retour. Vous avez revu peut-être le premier épisode, en tout cas sur France 2, c'était samedi. Eh bien samedi prochain, la suite qui débarque avec Samuel Labarthe avec un épisode intitulé Envie de meurtre. Bonjour Samuel, merci d'être avec nous.
Mais bonjour Alain, comment ça va?
Eh ben ça va très très bien, merci d'être là et je crois qu'on peut dire quand même que ce premier épisode, l'année dernière lors de sa première diffusion, avait fait un véritable carton, ce qui a décidé évidemment, eh bien France Télévisions a demandé une suite pour qu'on puisse re-suivre cette famille entre ce frère et cette sœur qui enquête et qui mène des enquêtes en tout cas, et on va les retrouver pour notre plus grand plaisir pour une enquête inédite samedi prochain.
Tout à fait, ben, moi je croise les doigts parce que c'est vrai que maintenant, pour continuer des séries comme ça, il faut que le spectateur soit au rendez-vous, que ça rassure la chaîne, voilà, et ça rassure tout le monde, et comme ça, on est sûr de pouvoir continuer sur des bonnes bases. Donc, je suis plutôt content. C'est une série à laquelle je tiens en plus.
Alors justement, on va parler de François dans un instant, Samuel, mais d'abord pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode justement samedi, qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs pour les inviter à découvrir peut-être déjà soit le premier épisode sur France.tv ou alors directement le deuxième, puisque on aura ce deuxième inédit samedi prochain.
Le pitch de la série, c'est évidemment une enquête policière dans les Hauts-de-France, toujours. Magnifique décor de la Côte d'Opale, autour d'une famille de flics, de père en fils. Alors, mon personnage, François, est un commissaire de père en fils, est l'aîné de la famille, et débarque sa petite sœur qui vient de la BAC, du 9-3, avec d'autres méthodes, et puis aussi le besoin de s'affirmer un peu face aux grands frères, etc. Elle arrive un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles, et donc ces deux méthodes, deux façons de se rapprocher, une histoire de famille, deux méthodes très très différentes, et deux personnalités surtout très différentes qui essaient de s'accorder.
Oui, ce qui n'était pas évident hein, dans le premier épisode qu'on a revu samedi, mais dans ce deuxième épisode, en tout cas, il y a une histoire de colocation, puisque désormais, le frère et la sœur vont être colocataires désormais, dans ce deuxième.
Oui, elle s'est installée chez son grand frère. Puis oui, effectivement, les angles se sont arrondis, on arrive à vivre mieux ensemble, on s'est dit certaines choses. Vous voyez, c'est toujours un petit peu le problème dans des familles entre un grand frère et une petite sœur ou un petit frère et une grande sœur.
Faut crever les abcès.
Il y a toujours, faut crever les abcès, faut pouvoir parler. Il y a l'éruption du père, en plus de ça, dans ce nouvel épisode. C'est assez croustillant, joué par Didier Flamand, qui est formidable, et qui fait qu'on comprend déjà un tout petit peu mieux pourquoi le grand frère est comme ça et la petite sœur est comme ça aussi.
Eh ben oui. Alors en plus il y a un beau casting autour de vous. On va y retrouver Alami Marouni ou encore Cécile Rébois évidemment qu'on adore également aux côtés aussi de Guillaume Durieux, Gwendoline Gourvenec. Il y a effectivement, on le disait, du beau monde puisqu'on va se retrouver dans une enquête qui va nous emmener dans le monde de la nuit des Hauts-de-France puisque c'est le corps de Jackie Lefranc, une propriétaire de nombreux nightclubs du Nord qui est retrouvée dans le parc de sa propriété. Et évidemment c'est sa fille unique Aurore qui est de retour après 30 ans d'absence, qui va être la première soupçonnée, en quelque sorte, de ce méfait.
Oui, toujours les problèmes de coïncidence. Elle est partie des années pour justement s'éloigner de sa mère, d'une histoire qui l'a fait souffrir il y a quelques années en arrière. Et elle revient quelque part au mauvais moment. Et évidemment, tous les soupçons tombent sur elle. À tort ou à raison, il faudra voir l'épisode pour le savoir.
Exactement. Et puis voir évidemment si c'est elle, si c'est pas elle. En tout cas, c'est une enquête, j'imagine, sur 1h30 qui va nous emmener dans des sentiers, des fois, pour tenter de nous perdre et de nous essayer de nous faire démêler le vrai du faux. C'est ce qu'on va découvrir, en tout cas, à la réalisation. Notre ami Didier Bivel, qu'on embrasse évidemment aussi, qui a réalisé cet épisode inédit.
Exactement. Merci de parler de tout le monde comme ça. C'est rare, effectivement, de donner les distributions, les réals, etc. Saluer aussi le travail des producteurs, des scénaristes, parce que franchement,
exactement.
C'est à chaque fois un gros
travail.
C'est
des gens à qui on donne la parole très régulièrement dans notre émission. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se peut, effectivement, on essaye toujours. Didier, on l'a reçu plusieurs fois et on aime beaucoup son travail aussi au niveau réalisation.
C'est
donc voilà, on aime bien le souligner. Est-ce qu'on a envie de faire une suite, mon cher Samuel?
Mais moi, j'ai bien envie de faire une suite parce que, vous voyez, on parle d'enquête policière, mais ce qui sous-tend tout ça, c'est des éléments, des liens humains. Et ce que j'aime beaucoup chez le personnage que j'interprète, c'est son rapport à la nature, aux gens, l'empathie qu'il a vis-à-vis des victimes ou des gens en général, son rapport à la nature, son rapport aux animaux. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je trouve que ça remet du lien, des choses un petit peu essentielles dans la vie de tous les jours et quelque part, on se sert du prétexte de l'enquête policière qui est très bien ficelée, très bien menée.
Ouais.
Mais pour parler aussi d'autre chose.
Des liens familiaux notamment.
Oui, les liens familiaux notamment, mais aussi son lien au monde, son lien à la nature. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. Pour pouvoir se connecter à soi-même, il faut d'abord se connecter au monde. Et si on est toujours coupé dans ces grandes villes et agité dans cette vie de malade qu'on mène tous, forcément, on a plus de problèmes qui se mettent en place. Et la preuve, c'est la petite sœur qui débarque de Paris, elle n'est pas du tout aussi sereine que son grand frère, on va dire.
Oui, ça c'est clair, c'est pas la même vie, effectivement. Non. Il y a déjà un troisième épisode dans les tiroirs ou qui a déjà été tourné, ou alors est-ce que c'est en projet pour 2024
Non, c'est en projet, c'est prêt, c'est écrit, mais il faut encore le tourner. Voilà, donc...
Toujours au rythme d'un par an ou vous aimeriez accélérer un peu le rythme?
Ah bah écoutez, on aimerait bien pouvoir faire 2-3 épisodes par an. Parce que encore une fois, il faut qu'on l'installe. C'est assez long hein, d'obtenir un rendez-vous avec une série qui commence. Moi, je me souviens qu'avec les épisodes des Petits Meurtres, on avait mis quand même certains 3-4 ans pour véritablement provoquer un rendez-vous. Puis alors après, bon, les 4 dernières années, c'était formidable. Les gens savaient quand allumer leur poste.
Ah bah c'était attendu, hein.
C'était attendu, mais maintenant, voilà, c'est chaque fois pareil, une nouvelle série, il faut vraiment que ça prenne le temps d'imprégner, d'infuser, et que les gens, voilà, attendent un vrai rendez-vous. Pour l'instant, c'est encore à l'idée de projet, de prototype, on va dire, de voir comment est-ce qu'on peut faire grandir tout ça. Et c'est passionnant parce que tout est ouvert. En tout cas, l'envie est là, ça c'est sûr.
Bon, on va voir si le succès du pilote, en tout cas, se confirme samedi prochain pour ce deuxième épisode inédit de Faire de Famille. On va terminer par les projets. Mon cher Samuel, dans quoi on va te voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en télé, cinéma, théâtre peut-être?
Alors là, j'ai renoué un petit peu avec les planches parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pu y revenir. Non seulement les planches, mais aussi l'endroit où j'ai commencé, à Genève. Je suis actuellement à Genève, en Suisse, en train de terminer une exploitation d'un spectacle que j'avais monté au Théâtre de Poche, qui est une adaptation de l'usage du monde de Nicolas Bouvier. Il va y avoir des dates à Évian, 6 et 7 février. Il va y avoir des petites dates en tournée, peut-être une reprise à Paris. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Et puis la suite aussi, que j'essaie de faire comme une sorte de triptyque de ces livres que j'aime beaucoup. Voilà. Puis d'autres choses qui sont sur le feu, mais dont je peux pas véritablement parler encore, puisque c'est pas fait.
Eh bien, quand voilà. Ça brûlera, ça sera l'occasion de se rappeler.
Exactement.
Merci
avec
beaucoup.
Plaisir, voilà.
Merci beaucoup, Samuel. En tout cas, Faire de Famille, nouvel épisode inédit. C'est samedi à 21h10 sur France 2. Attention, ouais. C'est France 2 samedi, hein, pas France 3.
Ah oui, France
voilà.
2.
Vous trompez pas de chaîne.
Soir, exactement.
À très vite.
Merci
on termine
beaucoup,
avec la bande-annonce. C'est parti.
Samedi soir. Comment c'est arrivé?
Nous ne savons pas encore, madame. Mais nous allons trouver.
Oh, hey, vous vous croyez où, là? On est en train de bosser.
Caroline Flamand, je suis la sœur du boss.
Ma nouvelle adjointe.
Ah, la parisienne de retour au bercail.
Ça promet, les deux, là.
Marcus, il dit que t'es un faux lent, il a tort. Hein. T'es un vrai lent.
À vouloir aller trop vite, on profite pas assez du paysage.
Oui.
Et on risque de louper l'arbre qui cache la forêt.
Ah, donc en fait, vous couchez avec les deux sœurs et vous auriez bien aimé que ça continue comme ça, non?
C'est à cause de lui que ma fille, elle est morte.
Qu'est-ce qu'elle fout?
C'est pas un peu dangereux, capitaine? Sylvie Testu, Samuel Labarthe, unis par les liens du sang. Flair de famille, samedi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé spéciale Maison de retraite. Kev Adams sera notre invité exceptionnel accompagné de Claude Zidi Junior, Firmin Richard et Anne-Marie Vin pour parler de la sortie du Maison de retraite 2. On continuera à parler de tout cela, je te le donnerai avec Nicole Calfan qui sera notre invité exceptionnel. Et puis on continuera également à parler de la tribu avec Vanessa David qui sera notre invité, plus plein d'autres surprises évidemment.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chute, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.